présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il a demandé à Mélusine de travailler avec Cliff. Il lui dit, si Cliff ne va plus au cours, je m'ennuie, les autres ne m'intéressent pas. Nous avons toujours été ensemble. Elle lui dit, je veux bien. Mais à condition que Cliff le veuille. Cliff est tout heureux d'avoir près de lui son ami. Et Didier va tous les matins chez Cliff pour étudier. Ils étudient dans la chambre de Cliff. Puis, l'après-midi, ils font du vélo, lisent ou jouent du piano. Cette vie leur va très bien. Et ils travaillent mieux qu'au lycée parce qu'ils ne sont pas ennuyés. Les cours sont pris par correspondance, ce sur un ordinateur portable très puissant. Comme ça, ils peuvent étudier quand ils veulent, comme ils veulent. Et si une leçon n'est pas comprise, ils peuvent la reprendre à l'infini. Les résultats de leurs devoirs le sont envoyés par courrier ou directement par Internet. Ils peuvent poser aussi des questions à des professeurs à n'importe quelle heure. Mais l'usine a inscrit Cliff pour le permis. Il étudie son code sur Internet aussi. Il mène une vie calme et tranquille dans un paradis entouré de verdure. Pendant qu'autour d'eux, pas loin de leur paradis, c'est l'enfer. Les grèves, la misère, les SDF, les émeutes.
Ils veulent nous tuer. Ça veut dire qu'on va le protéger,
les tueries pour tuer les pauvres. La faim, la peur, etc. Nous connaissons tout ça depuis Violence et Crépuscule. C'est-à-dire depuis des décennies. Le décor du monde et de la France n'a pas changé. Les ruines, les cadavres, la faim, la trop grande misère est au milieu de tout ça. Il y a des lieux de luxe où des gens dépensent des fortunes. Il n'y a plus de juste milieu. Il y a ou des riches ou les autres qui crèvent. Les villes sont des ruines, à part quelques quartiers. Framblanc rénove. Mais il faut du temps. Et en rénovant, ils chassent les pauvres des villes. Ils sont éliminés. Ou on les met dans des endroits pour eux. Les mettent dans des endroits pour eux, ils s'éliminent entre eux. Pourquoi chasse-t-on les pauvres des villes? Parce qu'ils font tâche, ils sont sales, laids, mal habillés. Ça choque dans les quartiers rénovés, ces choses. Et puis, des pauvres, plus on en élimine, plus il y en a. Ça se reproduit comme des lapins, des rats. On fait comme pour les rats, on dépauvitise les villes. Des hommes spécialisés circulent en ville et cherchent les pauvres. Lorsqu'ils en voient, ils les tuent. Ça se fait surtout la nuit. Ces hommes en noir connaissent bien les habitudes de ces choses et savent vous les trouver dans les caves. Sous les ponts, égouts, greniers. Le pauvre la nuit a peur et se cache sous terre. Mais des caméras qui traversent les murs les repèrent et on les voit. Mais lorsqu'on a besoin de main d'œuvre, on en prend, on les met dans des camps. Là, ils travaillent 6 mois et ils sont éliminés parce qu'épuisés. Puis, on en reprend d'autres. C'est pareil aussi pour les greffes et le sang, etc. Les enfants aussi sont très recherchés pour leurs organes, leur sang, et quelquefois pour en faire des soldats. On les forme pour l'armée ou pour l'industrie. Aussi, on les vend pour en faire des compagnons pour des hommes seuls. Comme vous voyez, le pauvre peut vivre. Même qu'il y en a trop, alors on élimine. On en garde à peu près que 10% et pour les enfants 40%. Aussi sont pris pour être stérilisés. Les enfants sont stérilisés d'office. On fait ça simplement en coupant complètement le sexe aux hommes et en brûlant les parties aux femmes. Je vous l'ai dit, comme des bêtes, des rats. Le gouvernement officiel ne sait rien. Ceux qui s'occupent des pauvres sont des équipes spécialisées, que l'on appelle les hommes en noir, qui appartiennent, je vous le dis, mais vous devez ne pas le savoir, à Franc Blanc. Mais chut, ces choses-là se font, mais on n'en parle pas. Vous voyez, parler de ce genre de choses dans les salons, et puis, peut-être que même Franc Blanc ne le sait pas. Mais, qui est Franc Blanc? Qui commande? La Franc Blanc. Corporation internationale, c'est difficile à dire, à moins que vous le savez depuis l'élu. Ces gros groupes, on ne sait pas très bien comment ça marche. C'est tellement énorme et compliqué. Beaulieu, ce n'est rien du tout. Et on joue avec lui. Une fois que l'on n'aura plus besoin de lui, il ira peut-être dans un supermarché, dans une boîte pour aliments pour chiens ou chats, voir l'élu. qui le sait? Franc Blanc, qui dirige? Franc Blanc, qui est Franc Blanc? Franc Blanc, c'est le bâtiment, la recherche médicale, la biotech. Le médical, l'eau, les énergies, les transports, les produits alimentaires, la formation et beaucoup d'autres petites choses. L'informatique aussi, bien entendu. Les médias. Les énergies. Sans la Franc Blanc, il n'y a pas de vie possible. C'est elle qui nourrit, donne des soins, enseigne, nettoie. Transport, voyage. Éduque, loge, protège, surveille, etc., etc. Beaulieu téléphone à son bureau, qui est chez lui, à Franc Blanc. Il lui dit,
j'ai fait un gros sacrifice. Ma fille a été envoyée en Afrique, et ceci pour vous faire plaisir. Je ne comprends pas que vous ne me mendiez pas suffisamment d'armes. Oui, je sais. Si l'on veut, on fait ça aussi pour sauver Jean. Oui, bien sûr, que ma fille a été sacrifiée à cause d'elle. Alors, je compte sur vous pour que j'aie plus de commandes. Je sais très bien que la guerre n'est pas déclarée, mais il faut être prêt. Avant de déclarer une guerre, il faut être prêt. Faites-le comprendre à notre président qui n'est pas un imbécile. Allez, je compte sur vous, cher ami. Ah, la vie d'un homme d'affaires n'est pas facile.
Et il raccroche. La porte de son bureau s'est ouverte. Sa femme, furieuse, elle lui dit, j'ai tout entendu. Il devient tout rouge, s'approche de lui. Elle lui dit, tu as sacrifié ta fille pour cette putain de jeune. C'est horrible, sacrifier sa fille, sa propre fille, pour ses affaires et cette putain. Je te déteste, je te hais. Tu es un être ignoble. Il lui dit,
calme-toi. Calme-toi.
Et pourquoi est-ce que je me calmerai? Est-ce que je viens d'apprendre mon propre mari faire ça à sa fille? Et pourquoi? Pour une putain.
Il lui dit, non, écoute, non.
Et toute tremblante, il se lève, il prend les bras, et se défend.
Calme-toi.
Pour une putain. Pour une putain.
Il la secoue et lui dit, calme-toi. Calme-toi. Les domestiques peuvent nous entendre.
Les domestiques, je m'en moque.
Il lui dit, pas moi. Et puis écoute-moi, notre fille n'est pas partie en Afrique pour Jeanne, mais pour nous, pour la France. Et pour une raison d'honneur, justement. C'est parce que Jeanne ne peut être un modèle, un mobile de guerre, que l'on a fait partie ta fille. Tu vois?
Je comprends rien. Je ne veux rien comprendre. Je veux que ma fille revienne de suite. Tu m'entends?
C'est impossible. Elle a une mission là-bas.
Mais elle va se faire tuer.
Il ne lui dit rien.
Je sais que tu le sais, qu'elle risque sa vie. Et tu l'as envoyée tout de même.
Je l'ai envoyée parce qu'on me l'a demandé. Si j'avais refusé, ça aurait été fini pour nous. Adieu les commandes d'armes et les affaires avec les francs blancs.
Je m'en moque. Tu me manques, c'est ma fille. Je m'en moque.
Adieu aussi les visons, l'appartement à Paris et tout.
Je m'en moque. J'irai avec ma fille vendre des légumes sur les marchés.
Soit. Mais sois raisonnable. On ne pouvait pas faire autrement. Et puis, la France le demandait.
La France, elle n'avait qu'à prendre une autre fille. Il y en a des tas. Surtout pour cette putain de Jeanne. Tiens, envoie une putain,
il lui dit.
Et tu crois qu'une putain aurait servi pour de motif pour une guerre?
Et pourquoi tiens-tu tellement à cette guerre? Nous avons suffisamment de tueries en France pour fabriquer des armes.
Mais cette guerre, c'est pour sauver le monde occidental.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Nous, notre civilisation.
Moi, je veux sauver ma fille. Je vais tout faire pour la ramener ici, et le plus vite possible. Je ne te parle plus. Tu es un être ignoble.
Elle sort de la pièce. Il retourne s'asseoir à son bureau.
Il se dit, je ne peux tout de même pas demander à ce que l'on ramène ma fille alors que je viens de demander des commandes supplémentaires d'armes à franc blanc. Il va me prendre pour un fou et une personne prise pour une folle dans le monde des affaires. C'est fini, on le rejette.
Monsieur Franblanc se dit qu'il faut faire vite. Beaulieu demande de plus en plus de commandes. Et puisqu'il veut des commandes, il faut que la guerre soit déclarée. Il se dit,
tant pis pour lui.
C'est lui qui décide que sa fille doit mourir le plus vite possible. Elle aurait eu un délai d'un mois ou deux s'il n'avait pas été si pressé. Va falloir chercher des mercenaires noirs pour faire la chose. Mais il ne faut pas que le président du groupe s'occupe de cette affaire. Aucune tâche ne doit éclabousser.
Il se souvient que Judith Lair, la directrice des relations humaines, lui a dit que si un jour il avait un gros problème, il pourrait compter sur elle. Surtout pour les problèmes délicats, pour éviter qu'il ait des ennuis. Il se dit que peut-être il pourrait lui demander de résoudre ce souci. Il lui avait dit ça. la foi ou ils étaient emmêlés avec un maître chanteur qui voulait dévoiler les relations entre la France blanche et les hommes en noir. Le chef des hommes en noir lui avait dit. Judith lui a dit de ne pas s'en occuper. Mais, s'il avait des ennuis de ce genre, c'est pas lui à s'en occuper. Un président devait rester blanc comme neige. Elle ne s'en était pas occupée de l'affaire. Elle avait été réglée. Le médecin-tor avait disparu à jamais, peut-être plongé dans du ciment ou un poteau d'immeuble. Il se dit qu'il va le lui demander et l'on verra bien. Elle est sûre, est dévouée à l'entreprise, au groupe. Mon téléphone et fait le numéro personnel de Judith.
Allô, Judith, je suis votre président. Vous allez bien? Bonjour. J'aimerais c'est que vous pouviez, si vous pouviez passer dans mon bureau le plus rapidement possible. Merci.
Et il raccroche. Plus tard, on sonne à son bureau. Il regarde sur son écran, c'est Judith. Il appuie pour ouvrir la porte capitonnée. Judith entre.
Monsieur le Président, vous avez demandé? Il se lève et lui dit, oui, venez vous asseoir, mademoiselle.
Et elle va s'asseoir en face du bureau. Lui se rassoit et lui dit
« Voilà, je suis très ennuyé. J'ai une affaire délicate à résoudre. Vous savez que nous avons envoyé en Afrique, mademoiselle, Florence Beaulieu pour propagande et représenter la France et nos produits. Mais pas que pour ça, le gouvernement et moi-même avons décidé, c'est de déclarer la guerre à tout le continent africain. Et pour cela, il nous faut un prétexte. Nous avions pensé à l'enlèvement de Jean Neff, mais c'était peu crédible, vu ses antécédents et sa façon de faire. Et puis, elle est partie de son plein gré. Tout le monde le sait. Ce n'est donc pas un enlèvement. Donc, nous avons été obligés, c'est de prendre une jeune fille. Une vraie jeune fille. Nous avons demandé à Beaulieu, puisqu'il nous ennuyait avec ses commandes d'armes, nous avons dit que s'il voulait que nous lui achetions plus d'armes, alors il fallait qu'il nous aide à ce qu'il y ait une guerre. Cet abruti a dit oui et nous a offert sa fille. Sa fille est en Afrique. Elle joue la princesse au grand corps. Les Africains sont en admiration et l'adorent. Voici Gala et les autres journaux, magazines font des reportages sur elle. Les Africains ne la toucheront pas. Alors il faut faire quelque chose. Il faut en faire une martyre pour qu'on puisse déclarer cette satanée guerre. Tout le monde s'impatiente, même cet abruti de père. Et si on ne la déclare pas rapidement, les Américains ont décidé de faire comme nous, mais avec une actrice américaine en sacrifice. Comme ça, c'est eux qui déclareront la guerre, et s'ils la déclarent avant nous, ils auront le continent africain et toutes leurs richesses. Et ont même décidé de céder à Disney pour faire un parc d'attractions. Non, il faut que ce soit nous, la Framblon, qui ayons l'Afrique et que nous emparions de leurs richesses pour faire aussi un parc d'attractions. Vous comprenez ?
Oui, monsieur le président, il lui dit, il faut que cette fille soit sacrifiée le plus vite possible.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Caire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.